Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
On bouffe ?
Tu bouffes ? Tu bouffes ?
Deuxième épisode de Bouffon au sujet de la cuisine filmée qu'on vous propose tous les premiers mercredis du mois. On avait parlé de la cuisine dans le documentaire dans le premier et aujourd'hui, on va parler de la cuisine à la télévision. La cuisine a envahi la télé et c'est pas tout récent, mais c'est vrai que depuis quelques années, on mange ou fait à manger un peu partout et tout le temps sur le poste. Et il fallait bien choisir de quoi on voulait parler. Alors on aurait pu parler des émissions type Un dîner presque parfait ou des émissions de terroir où un Cyril Lignac traverse la France sur sa moto cheveux au vent. Mais on a plutôt décidé de parler de ce qu'on peut considérer comme les deux piliers du genre. En seconde partie, c'est ce qu'on appelle les concours, alors Top Chef, Master Chef, qui depuis leurs arrivées sur nos écrans n'ont pas arrêté de cartonner. Et on reçoit pour ça Philippe Jacquin, ancien finaliste de la dernière saison de Masterchef, qui est venu nous parler de son aventure et de ce qu'elle lui a appris.
Il y a le stress de l'épreuve avec le timing, qui est un vrai timing. Beaucoup de mes amis, quand j'ai raconté mon expérience, me disaient « Attends, quand on dit lever les bras, tu sais, allez, il reste 3 secondes. » C'est vrai, on lève les bras et si l'assiette n'est pas finie, terminée. Donc il y a cette peur, ce stress. Mais à côté de ça, on est quand même entouré de chefs très étoilés.
Mais d'abord, on va parler des recettes à la télé, le format historique de la cuisine filmée, puisqu'il est apparu dès son invention et n'a cessé de se transformer, de bouger, en collant à chaque fois aux évolutions de la société. Pour en parler, on a invité Olivier Roget, qui a fait un mémoire sur le sujet et qu'on peut retrouver dans son livre « La cuisine en spectacle, les émissions de recettes à la télévision ».
Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on faisait une leçon de cuisine, ou justement pas une leçon de cuisine, mais comment on apprenait à faire la cuisine à ceux qui regardent.
Alors la cuisine arrive très tôt à la télé, quasiment dès les premières émissions. Pourquoi si tôt ?
Alors ça, c'est une bonne question. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que la première émission de cuisine ressemble pas du tout aux émissions de cuisine qu'on a vues ensuite. La première émission date de 1953, donc comme tu le disais, c'est les tout débuts de la télévision. La télévision n'est pas du tout encore un média de masse. Et l'émission qui existe alors, elle est présentée par un comédien qui est en costume cravate avec un tablier et qui présente des recettes assez simples tout en faisant des blagues. Et donc en fait, l'émission de cuisine a directement été pensée comme un divertissement. Elle était programmée le soir. Et donc on était vraiment sur un format hybride entre la leçon, parce qu'il y avait un côté très scolaire dans cette émission, et à la fois le divertissement lié au fait que ce soit un comédien.
Cette émission s'appelait Monsieur X, c'est ça ?
Alors, les recettes de Monsieur X.
Les recettes de Monsieur X,
c'est ça.
Et c'est vrai que, alors, rechercher, ça se trouve facilement sur YouTube. Lina en Armie,
ouais.
Ça vaut le coup parce qu'il a un côté. Déjà, il sait pas vraiment faire la cuisine.
Exactement.
Et il a un côté très. Un peu pince sans rire, un peu humour à l'ancienne, entre guillemets, qui est assez particulier.
Autrefois, chez les Égyptiens, l'oignon était à l'honneur et était même considéré comme une divinité, une déité.
C'était en prime time, non ça, c'était,
ouais, exactement.
C'était pas le prime time à l'époque, mais...
Oui, alors exactement. À l'époque, on pouvait pas vraiment parler de prime time, mais même si c'était en fait le créneau de 20h30. Donc la télévision, à l'époque, il y a que quelques heures par jour. Hein, donc de toute façon, ça restreignait les plages horaires. Mais en tout cas, ça a vraiment été mis à l'horaire qui était déjà le plus exposé. Parce que justement, l'émission a pas été conçue comme une leçon pratique à cette époque-là pour les ménagères. Mais c'était vraiment en fait une sorte de divertissement plus fédérateur. Et en fait, le comédien, c'était un comédien qui intervenait dans les dramatiques, qui étaient ces pièces de théâtre filmées, qui étaient le divertissement phare de la télévision. Et donc, il y avait bien un prolongement entre le fait de faire la cuisine et le fait de proposer un spectacle.
Et c'est un échec...
Cuisant. Ouais, ça a été un gros échec. Alors, on peut le voir sur les quelques mesures d'audience qui étaient à cette époque très rudimentaires et qui existaient déjà. Mais on peut le voir surtout, on a les comptes rendus dans les archives de ceux qui concevaient les programmes à l'époque. Et son émission ne fait pas du tout l'unanimité. Et donc, au premier prétexte trouvé, qui d'ailleurs est quand même au bout d'un an, mais la première grève venue, eh ben, on a réussi à virer ce monsieur X et à le remplacer par quelqu'un d'autre.
Et il le remplace tout de suite par Raymond Oliver ou ça vient un peu plus tard ?
Alors non, il est remplacé tout de suite par Raymond Oliver, donc Raymond Oliver qui était un grand chef, 3 étoiles, chef du Grand Véfour à Paris. Et en fait, au départ, il voulait pas du tout un chef pour présenter des émissions. Et ça, c'est très intéressant, justement, si on s'intéresse à cette histoire de transmission. Parce que pour ceux qui faisaient les programmes, si on mettait un grand chef, il ne saurait pas expliquer ce qu'il fait aux personnes qui ne détiennent pas le savoir culinaire. Donc, eux, ils pensent que les émissions de cuisine s'adressent aux femmes au foyer, essentiellement à cette époque, qui préparent la cuisine chez elles. Et ils se disent, bah, si on met un chef cuisinier devant elles, c'est deux savoirs complètement distincts. Et donc, le chef ne saura pas expliquer.
Et donc, c'est là qu'arrive le sidekick, l'alter ego féminin.
C'est ça.
C'est la première fois, dès la deuxième émission de cuisine, on voit apparaître c'est une présentatrice télé qui joue le rôle un peu de l'ingénue, qui va tempérer un peu les ardeurs du chef dans l'idée de faire des explications trop compliquées, c'est ça ?
Voilà, c'est exactement ça. On a donc Catherine Langeais qui était à la fois une représentante des ménagères, mais qui était aussi une grande star à l'époque. C'était une vedette très admirée. C'était une des speakerines phares de la télévision. Et donc, on la met tout de suite aux côtés de Raymond Oliver, parce qu'on se rend bien compte que pour faciliter la transmission, il faut quelqu'un qui ne soit pas un expert de la cuisine, mais qui puisse poser les questions que les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices se poseraient en voyant le chef. Et donc, on a donc ce duo qui se constitue. Et c'est vrai que c'est une tendance qu'on trouvera pendant très longtemps ensuite dans les émissions de cuisine en France, avec l'expert et la médiatrice qui fait le lien entre l'expert et les téléspectateurs.
Alors, dans cette seconde casserole où je viens de mettre du beurre à fondre avec un tout petit peu d'huile, regardez si ça, tout ça, ça mijote. C'est merveilleux, la cuisine pour les hommes.
Je vous ferai quelques petites remarques quand vous aurez fini.
Attention, ne soyez pas méchants.
Oh, du tout, jamais. Pensez-vous, il n'y a que la cuisine qui met les hommes de bonne humeur.
Tu dis en France parce que c'est moins le cas à l'étranger ?
Alors oui, ça n'a pas toujours été le cas à l'étranger, si on pense à un exemple très célèbre qui est celui de Julia Child aux États-Unis, où elle était toute seule face aux caméras, et on n'avait pas, parce qu'en fait on n'avait pas ce statut du chef qui met un peu sur un piédestal et crée une distance avec le téléspectateur, mais on avait souvent à l'étranger des personnalités qui se présentaient d'égal à égal avec le téléspectateur, et donc il n'y avait pas besoin de cet entre-deux pour faciliter la transmission.
Ah, c'est marrant parce qu'à travers la télévision, la cuisine à la télévision, selon les pays, on peut voir la vision du chef, de la cuisine, etc.
Exactement, c'est extrêmement riche et on voit beaucoup de choses.
Et alors par contre, Raymond Oliver, c'est un carton absolu, ça dure 13 ans, c'est ça ?
Oui, alors oui, 14 ans en gros. Enfin, il arrive en 1954 et il part en 1968, là aussi après des grèves, mais dans un contexte bien différent. Et donc oui, lui, pendant 14 ans, il s'impose vraiment comme la star de la cuisine à la télévision. C'est d'ailleurs même probablement la première vraie star culinaire. Il faut savoir que Raymond Oliver faisait les couvertures des télémagazines. C'était vraiment devenu en fait un sorte de people par le fait qu'il apparaisse à la télévision. Et donc, il a présenté différentes émissions, au début sur un rythme hebdomadaire, après sur un rythme un peu moins soutenu. Mais en tout cas, c'était vraiment une des grandes figures de la télévision de l'époque. Et en fait, il a beaucoup marqué les téléspectateurs parce qu'il était très impressionnant, en fait.
Oui, il était assez charismatique, il avait un accent, c'était...
Voilà, exactement. Donc, son accent du Sud-Ouest qui était bien, bien connu et moqué. Et en même temps, une façon de faire la cuisine qui, justement, était en décalage complet avec ce que les gens faisaient chez eux. Donc, il était extrêmement rapide, il utilisait des grands gestes, des grands ustensiles. Et donc, ça aussi, ça crée une certaine fascination qui, du coup, a beaucoup intéressé les téléspectateurs. Et il faut savoir aussi que le duo qu'il formait avec Catherine Langeais, qui était un duo qui... au départ était très scolaire, mais qui rapidement est devenu beaucoup plus décontracté, avec beaucoup de blagues entre les deux et une dynamique de duo qui a aussi beaucoup participé au succès de l'émission.
C'est vrai qu'on a l'impression que la cuisine à la télé, il y a toujours eu des blagues en fait. Enfin, c'est pourtant là où le reste de la télé était quand même assez sérieux.
Exactement,
dès le début.
Ouais.
Là vraiment même, c'est que la deuxième émission, et moi c'est vrai que ceux que j'ai vus aussi, ils se vannent vachement les uns les autres. Quoi.
C'est ça, oui, il y a beaucoup de blagues. Alors je pense que c'est vraiment aussi lié au tempérament entre les deux, et c'est aussi lié au fait que pour la cuisine, on a tout de suite pensé, je pense que une atmosphère trop sérieuse était assez pesante et détournait les téléspectateurs, alors qu'en fait on veut quand même de la cuisine où on se fait plaisir, quoi.
Et alors pourquoi Raymond Oliver, bon, qui a acquis un statut quasi culte maintenant, même les gens qui font qui travaillent dans les médias culinaires aujourd'hui le citent encore comme exemple, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il va à la télé ? Parce que maintenant ça paraît évident que les chefs ont besoin de visibilité pour faire tourner leur restaurant, mais à ce moment-là la télé n'a pas non plus cette aura-là. Pourquoi est-ce que lui il se dit, est-ce que c'est pas un peu un visionnaire ou en tout cas un explorateur de se dire je vais faire de la télé ?
Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, donc c'est difficile de savoir pourquoi précisément il s'est tourné vers la télévision, mais il faut savoir qu'en fait, on peut vraiment voir dans Raymond Oliver une sorte de précurseur du statut du chef d'aujourd'hui. En cela, il a même précédé succédé, en fait, Paul Bocuse, qui est souvent cité en exemple. Donc, Raymond Oliver, quand il est arrivé à Paris, il a été un des premiers chefs à devenir propriétaire de son restaurant. Donc ça, déjà, c'est un élément très important dans le fait qu'il avait, voilà, il voulait donner au chef un aspect économique. Et il a beaucoup valorisé sa réussite économique. Et il faut savoir aussi qu'au Grand Véfour, c'était tout de suite le Paris très mondain qui a fréquenté ce restaurant. Et donc, notamment, beaucoup de personnes qui travaillaient dans les médias. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'il est arrivé dans les médias, par les clients de son restaurant, qui, à mon avis, ont tout de suite vu le potentiel médiatique, charismatique de Raymond Oliver et ont facilité son entrée sur les plateaux de télévision.
Et donc après, il y a toutes les... Évidemment, tu parlais de Paul Bocuse tout à l'heure, mais tous les gens de la Nouvelle Cuisine, Trois Gros, Guérard, évidemment, ont profité de la télévision. Ils ont eu leur émission de télé aussi, tous ensemble. C'était important pour eux, en fait, enfin, ça faisait partie du package, entre guillemets, Nouvelle Cuisine, d'avoir... Ouais, on va faire des trucs nouveaux, on va faire des tournées à l'étranger, mais on a besoin de rayonner avec la télévision.
Exactement.
Ils le font plus consciemment, quoi.
Tout à fait. Là, il y avait vraiment une stratégie promotionnelle qui était même aussi liée à une stratégie commerciale, puisque Michel Guérard est le premier, par exemple, à avoir fait, à l'époque même où il présentait une émission à la télé, c'est le premier à avoir fait un partenariat avec l'industrie agroalimentaire. Donc, il y avait des plats qui étaient vendus à son effigie dans les magasins, et en même temps, il présentait une émission de cuisine à la télévision où le statut du chef était vraiment très mis en valeur. Donc, tout ça, évidemment, ça a un lien. Et en effet, on sait qu'un des buts des cuisiniers de la Nouvelle Cuisine, c'était de faire sortir les cuisiniers de leur cuisine et donc les faire reconnaître à l'extérieur. Et dans ce cas-là, évidemment, la télévision participe beaucoup de cela, au même titre que la publication de leurs livres, la sortie de magazines, etc. Et donc, c'est vraiment une stratégie globale de donner de la visibilité aux chefs et les faire reconnaître en tant qu'artistes.
Et là, ensuite, on arrive à des années où je suis quand même un peu plus contemporain, parce que c'est Maïté Robuchon,
oui.
Qui, là, du coup, bon, reprend aussi ce truc de duo, d'invité. Alors, Maïté, c'est plus elle qui est la chef et elle est accompagnée de celle dont j'ai oublié le nom.
De Micheline.
De Micheline, c'est ça, qui elle joue vraiment, on revient sur ce sidekick, enfin de ce partenaire qui doit représenter la ménagère, quoi. Vraiment, elle est l'image cliché presque de la spectatrice idéale, j'imagine, des gens qui ont mis en place cette émission.
Voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir, d'ailleurs, les rapports entre Maïté et Micheline, c'est quelque chose de très intéressant et d'ailleurs, ça a été très conflictuel et c'est ce qui a amené à la fin de l'émission.
Ah
mais
oui.
En fait, voilà, c'était un peu en fait le choc des cultures parce qu'en fait, Micheline, c'était à la base une violoniste. Elle était ensuite productrice d'émissions sur France Musique et elle a voulu faire une émission de cuisine sur France 3 Aquitaine. Mais elle voulait faire en fait une émission culturelle sur la cuisine. C'est pour ça que le titre de l'émission, La cuisine des mousquetaires, renvoie à Alexandre Dumas. Donc, on avait vraiment une volonté d'émission culturelle. Et en fait, le producteur de l'émission, lui a le réalisateur, pardon, de l'émission, lui a trouvé Maïté pour faire les recettes. Et là, voilà, vraiment le choc des cultures. Et donc, on a aussi, là encore, toute la dynamique de l'émission est un peu portée par le choc entre ces deux femmes que visiblement tout oppose. Donc, voilà, ça a aussi participé.
Du coup, la tension qu'on voit dans certains épisodes, elle est réelle, quoi.
Ouais, voilà, elle est réelle et il y a vraiment, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a vraiment un psychodrame autour de la fin de l'émission qui a fait d'ailleurs les gros titres de la presse à l'époque,
ah ouais.
Où on avait des titres, le torchon brûle entre Maïté et Micheline, etc. Et c'est vraiment ce qui a mené à la fin de l'émission avec Maïté qui accusait Micheline d'être jalouse de son succès. Micheline qui disait à Maïté, j'ai pas besoin d'elle pour savoir ce que je vaux, etc. Donc c'était vraiment des rapports assez intéressants et qui aussi en disent long sur la façon dont la cuisine exprime en fait voilà une identité à la fois régionale, une identité sociale, etc. Avec donc ce clash, on dirait aujourd'hui, entre ces deux cultures.
J'ai mis mon pastis
à chauffer.
Alors là,
un petit coup de feu,
c'est comme à l'Armagnac. Ici, il faut que ça flambe.
Et est-ce que c'est pas aussi le début de la télé qui fait des stars et du coup qui met un peu de sel dans les relations entre les gens? Est-ce que c'est pas un truc qu'on voyait moins à l'époque? Et parce que Maïté et Micheline étaient vraiment des célébrités.
Voilà, elles sont devenues des célébrités, ce qui n'était pas du tout. Enfin, quand ils ont commencé l'émission, ils n'ont jamais imaginé que ça aurait le succès que ça a eu. Mais c'est vrai qu'ensuite, il y a eu des phénomènes de célébrités très importants. Et je pense qu'en effet, ça. Ensuite, on a aussi construit des personnages. C'est-à-dire que Maïté, elle a vite été identifiée comme un personnage avec ses caractéristiques propres, son langage grossier, son accent, sa prodigalité, on dirait. Et donc ensuite, je pense évidemment qu'elle s'est aussi un peu enfermée dans un personnage. On l'a beaucoup fait jouer, ce personnage, ce qui a contribué à sa notoriété et ce qui fige aussi un peu la personnalité.
Et c'est vrai qu'il y a un truc, moi j'ai l'impression que c'est aussi l'époque où la télé magnifie moins les gens. Parce que moi, par exemple, pour parler de Robuchon, qui animait Bon Appétit, bien sûr,
oui.
J'ai mis vachement de temps... parce que je le regardais quand j'étais petit, et pour moi j'ai mis vachement de temps à comprendre que Robuchon était un grand chef en fait. Pour moi c'était le chef de la télé, et donc du coup pas quelqu'un qui a son statut. Donc pour moi j'ai l'impression que si Maïté c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui savent même pas que c'est quand même une très grande cuisinière qui a des restos qui marchaient très bien. Et est-ce que la télé aussi a pas tendance à vraiment lisser, à aplanir aussi les choses en fait, ou les gens en tout cas?
Oui, alors c'est tout à fait possible, mais il faut savoir aussi que je pense que le positionnement de Robuchon était très différent, parce que lui, il se mettait dans la position finalement du médiateur, ce qui en fait était très inconfortable pour lui, parce qu'il était à la fois grand chef, mais en même temps, il est celui qui accueillait un grand chef, et il aidait les grands chefs à transmettre leurs recettes au public. Donc du coup, il avait un positionnement un peu délicat, parce qu'en fait, il jouait à l'ingénu, ce qui d'ailleurs se voit beaucoup quand on voit les émissions aujourd'hui, et ce qui paraît même un peu amusant, parce qu'il demande des explications au grand chef, alors qu'il connaît la grande cuisine parfois même mieux qu'eux, sans doute. Donc il y avait aussi ce positionnement là, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cette perception d'un chef qui du coup n'est pas dans une position d'autorité où il délivre vraiment son savoir, mais on a vraiment un chef qui essaye de faire le lien entre le chef et le téléspectateur, et qui du coup est dans une position plus ambiguë.
Ouais, il joue un peu l'ingénu pour faire cette transmission, du coup ça écorne un peu son image. Et c'est vrai que si on regarde Bon Appétit bien sûr, qui est aussi les émissions qu'on sur YouTube, moi ça m'a fasciné quand j'ai retrouvé cette chaîne, parce que en fait on déjà dans les types des recettes qu'ils font, les produits utilisés, la façon de faire, on a l'impression que c'est une émission qui date d'il y a 50 ans quoi. Et c'est fou, je trouve, là justement quand on suit l'évolution des recettes filmées sur la télévision, enfin à la télévision, on voit des évolutions sur tout en fait, sur comment la cuisine a évolué, comment les mœurs ont évolué. Ça c'est un truc aussi que t'as un peu regardé, t'as un peu étudié, t'en as parlé un peu dans ton livre aussi.
Oui, tout à fait. En fait, la télévision, c'est un très bon observatoire pour voir à la fois les transformations de la télévision, mais en même temps, on voit énormément de choses sur l'évolution du statut de la cuisine, de comment on fait la cuisine, de quel type de recettes on fait. Mais ce qui est intéressant aussi, comme tu le soulignais, c'est le décalage entre la télévision et la réalité. C'est-à-dire que quand on a Maïté dans les années 90, Maïté, elle fait pas du tout la cuisine comme les gens la faisaient dans les années 90, et c'est tout ce décalage qui a fait son succès. Alors ensuite, sur Joël Robuchon, on a aussi un décalage en fait qui est vraiment plus télévisuel, c'est-à-dire que lui, il fait de la télévision comme on en faisait 30 ans auparavant, alors que les recettes qu'il présente, ce sont les recettes des chefs de ce temps-là. Et donc, c'est très intéressant d'essayer de percevoir ces décalages. Alors, ils sont parfois difficiles, parce que c'est difficile de reconstruire dans le présent la façon dont on voyait les choses dans le passé, mais c'est là que c'est intéressant d'avoir la presse, les avis des téléspectateurs, où en fait, on voit bien, du coup, quelle est la façon dont les gens voient les choses et les décalages qui se produisent entre ce qu'ils voient et ce qu'ils s'attendent à voir à ce moment-là.
Et est-ce que les gens, la vision des gens a toujours été à peu près la même sur ces émissions de télé?
Alors, je pense que ça a progressivement évolué, c'est-à-dire qu'au moment de Raymond Oliver, je pense que les émissions de cuisine étaient vraiment très regardées et avec intérêt. Et ensuite, les émissions de cuisine ont eu tendance à être reléguées à des horaires pas forcément très exposés, notamment dans la journée où il y a peu de gens qui regardent la télévision. Et je pense que les émissions de cuisine aussi ont pas toujours été très modernes et très innovantes, comme tu le soulignais. Et du coup, je pense qu'elles ont acquis progressivement une image assez ringarde, en fait, et un peu dépassée. Alors, ça a changé un peu après dans les années 2000 avec de nouveaux formats et avec l'arrivée de nouvelles figures comme Cyril Lignac, par exemple, qui ont un peu dépoussiéré le genre, renouvelé, et qui ont donné une nouvelle visibilité à ces émissions. Mais je pense que dans l'ensemble, les émissions de cuisine, aujourd'hui, on les associe à un truc un peu franchouillard, avec l'accent du Sud-Ouest forcément quelque part. Et donc, on n'a pas forcément une vision très moderne et très positive de ces programmes qui apparaissent un peu enfermés dans une routine sur le terroir.
Et maintenant, du coup, il n'y a pas d'émission culte. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas d'émission. Si on demande aux gens quelle est votre émission de recette, j'ai l'impression que personne n'a quelque chose à dire.
Oui, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a Julie Andrieux qui est probablement celle qui aujourd'hui incarne le plus ce genre à la télévision. Mais je pense qu'on peut dire qu'elle n'a pas la même exposition que certains grands chefs ont eu à cette époque, et qu'elle incarne pas autant le genre qui, en fait, je pense, est un peu en manque justement d'incarnation aujourd'hui.
Et est-ce que finalement, il s'est pas déporté vers YouTube en fait, ou en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, où avant la frontière était mince entre une émission qu'on regarde pour refaire des trucs et ou pour observer un chef faire quelque chose. Maintenant, si on veut observer, on a Top Chef et les reportages. Et si on veut refaire, on a YouTube, en fait.
Oui, alors je pense que YouTube, pour ça, est très utile, et Internet en général, parce qu'en fait, on trouve la recette qui répond à notre demande. On n'est pas, parce que la leçon de cuisine et l'apprentissage est très plus compliqué dans une logique d'offre, en fait, où on vous dit, bah, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Mais si c'est pas ce qu'on a envie d'apprendre à faire, forcément, ça va pas beaucoup nous intéresser. Alors que sur Internet, en fait, quand on veut trouver la manière de faire quelque chose, on le trouve. Donc, je pense que ça change beaucoup les choses et c'est pour ça qu'il y a une vraie demande pour les vidéos sur Internet au même titre que les livres de cuisine, en fait. Hein, ça répond à la même logique. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu il y a un peu un manque des émissions de cuisine de ce point de vue-là à la télévision. Et surtout, en fait, les émissions de cuisine vont avoir une approche un peu différente, qui va être plus centrée sur un thème, qui va devenir une émission plus d'art de vivre, et non pas nécessairement une émission de transmission pure du savoir.
Et les femmes, alors, dans tout ça, sur la cuisine à la télé, elles ont quand même pas le meilleur rôle, quoi, alors qu'elles sont les spectatrices principales, en tout cas au début.
Oui, alors elles ont pas toujours le beau rôle, en effet. Donc on a parlé un peu de cette figure de médiatrice qui était celle de la femme qui accompagne le chef. Donc ça, c'était vraiment le cas notamment de Catherine Langer avec Raymond Oliver. On joue en fait sur le côté non professionnel de la femme par rapport au professionnel. Et ensuite, on a des figures un peu différentes qui sont apparues, notamment avec la revalorisation du terroir. Donc on a eu avant Maïté, qui est une des figures importante, on a eu une femme qui s'appelait Adrienne et qui, elle, en fait, présentait des recettes à une jeune femme avec un peu l'idée que Adrienne incarnait la grand-mère qui apprenait à sa fille ou à sa petite-fille comment faire la cuisine et en fait qui répondait bien aussi aux soucis de l'époque où on était à un moment où justement on n'a plus appris aux filles à faire la cuisine en famille, la transmission mère-fille s'est un peu perdue et du coup par la télévision on a retrouvé cette transmission générationnelle entre femmes. Mais c'est vrai qu'après les émissions culinaires sont marquées comme toute la cuisine en général par la domination des chefs qui sont des chefs essentiellement masculins. Il y a peu de figures féminines qui ont émergé même par la télévision et là ça reproduit vraiment ce qu'on observe dans le monde de la cuisine professionnelle en général. Et après on peut quand même citer la figure de Julie Andrieux qui, là, elle, représente un nouveau type de femme qui fait la cuisine par plaisir. Donc, c'est-à-dire qui revendique le plaisir de cuisiner, qui ne le fait pas par obligation domestique, comme ça a été souvent assigné aux femmes. Mais là, on a vraiment un rapport différent à la cuisine qui, en fait, est presque un rapport masculin à la cuisine, qui est un rapport de curiosité, de d'ouverture, de connaissance, etc., un savoir gastronomique, alors que la gastronomie était auparavant le domaine des hommes quand les femmes s'occupaient de la cuisine ménagère.
Oui, et puis même son profil change, c'est parce que Maïté, c'est quand même une femme forte, qui parle fort, enfin, qui a quelques caractéristiques qu'on pourrait dire masculines. Là, Julie Andrieux, c'est une femme qui fait la cuisine. Enfin, elle est presque anachronique si c'était pas justement ça l'avenir, quoi. Mais elle est, en tout cas, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est pour ça que c'est intéressant de voir son profil. Ouais.
Oui, exactement. Parce que Maïté a souvent été comparée à un homme. Hein. Quand on lit la presse, justement, on voit que, en fait, la cuisine de Maïté a aussi beaucoup surpris parce que c'était pas la cuisine qu'on attendait de la part d'une femme. C'est-à-dire qu'elle avait pas les qualités de douceur, d'attention, etc., qu'on imagine être la cuisine de la mère nourricière pour ses enfants, etc. Donc, c'est aussi ce décalage. Alors qu'en fait, on voit bien que Maïté, elle incarne la cuisine rurale traditionnelle qui était la cuisine de femme. Mais ça ne correspondait déjà plus à l'image qu'on se faisait d'une cuisine féminine. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et Julie Andrieux, elle, en effet, présente le profil de la jeune femme urbaine, cadre dynamique, qui fait la cuisine, comme on le disait, par plaisir, une cuisine qui intègre beaucoup de contraintes différentes, une cuisine minceur par certains moments, une cuisine, quand on veut que ce soit un plat traditionnel pour la famille, c'est un plat traditionnel pour la famille, une cuisine qui s'adapte à beaucoup de contextes et qui, en ce sens, est très différente de la cuisine de Maïté, qui représente cette cuisine rurale, traditionnelle, un peu ancestrale, telle qu'on la voit.
Il y a un autre truc qu'elle a perdu en route, c'est sa naïveté. Parce que j'ai l'impression, ouais. Moi en tout cas, je l'ai déjà vu même cuisiner avec Thierry Marx. Je sais plus c'était quoi le plat exactement, mais un truc assez classique, traditionnel. Et elle a changé un petit peu le truc. Et Thierry Marx lui dit « Ah bon, vous faites ça ?» Et au lieu de s'écraser face au grand chef, elle dit « Ouais, c'est comme ça que je fais. » quoi. Et point, en fait, et le problème est évacué.
Ouais, exactement. C'est vrai que là, dans son émission actuelle, donc les carnets de Julie, où on a l'idée d'un dialogue avec le chef, alors qu'il y a un dialogue où chacun apporte ses spécificités, c'est-à-dire que le chef apporte son expérience de chef professionnel, mais l'expérience de Julie Andrieux, qui est un peu la maîtresse de maison professionnelle, enfin, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais en effet, du coup, ça donne l'idée qu'il n'y a pas une expertise qui prévaut sur l'autre, et on est vraiment dans un dialogue et que du coup, en effet, son statut en tant que femme amatrice de cuisine n'est pas infériorisé par rapport à celui du chef, ça c'est tout à fait exact.
Merci à Olivier Roger. On met toutes les infos concernant son livre sur notre site et aussi on met toutes les vidéos dont on a parlé, les archives de Lina, que je vous conseille vivement d'aller voir. C'est vraiment bien de se faire une espèce de retour en arrière pour voir les évolutions de la bouffe filmée. Et en plus, parfois, c'est assez drôle à voir. Et maintenant, parlons d'aujourd'hui avec Philippe Jacquin, qui a participé à la dernière saison de Masterchef et même arrivé en finale et est venu parler au micro de Bouffon pour nous raconter tout ça.
Je m'étais inscrit au concours qui a lieu au mois d'août, Grand Prix Escoffier, que je vais gagner.
Il fallait faire quoi dans ce concours ?
Faire un plat, il y avait un posé, c'était lapin et alors je te parle de ça il y a très très longtemps. Mais bon voilà, j'avais reçu le prix spécial du jury, donc déjà, mais bon, ça ne m'avait absolument pas ouvert l'esprit sur participer à une émission de télévision, quoi, pas du tout du tout.
Et là, tes enfants et leurs amis t'inscrivent, est-ce que tu te dis go ou non, enfin c'est quoi ta première impression?
La première impression, c'est ils m'ont bien eu. La deuxième impression, c'est je t'avouerai que je n'hésitais que qu'une fraction de seconde. Puis je réfléchis, je dis allez, pourquoi pas, ça te coûte rien de renvoyer le bulletin d'inscription.
Et donc tu es sélectionné, le tournage va commencer. Est-ce que tu t'entraînes à un moment? Est-ce que tu fais plus la cuisine que d'habitude ou tu continues à faire comme tu fais?
Bon, tu sais, mon métier me laisse pas vraiment loisir à m'entraîner des semaines entières, mais les week-ends, oui, les week-ends. Mais bon, de toute façon, les week-ends, je cuisine tout le temps.
Ouais, y a pas une différence particulière?
Très peu, si. Je me suis documenté. Mon épouse partait au marché, ouais. Et elle revenait avec des produits. Je ne savais pas. Elle me dit, allez, vas-y, fais-moi quelque chose maintenant. Ce qu'on a vécu lors de l'émission. Voilà, des petites choses comme ça, mais pas beaucoup, beaucoup plus. Je n'avais pas le temps, hein, de toute façon.
Oui, en fait, tu fais quoi? Tu prends juste un congé le temps du tournage, j'imagine?
Ben, je prends un congé sans savoir la durée, quoi.
Oui, c'est ça. Mais tu prends un congé pour les moments de tournage. Ça se passe comment? Pour le premier, en tout cas?
Le premier, non, le premier, c'est Marseille, où nous étions 300. Donc les 300 sur les 3000, sur les 10 000, enfin bon. Et Marseille... on doit cuisiner, on doit apporter tous les ingrédients et on cuisine devant les chefs. Là, on fait la connaissance des trois chefs, des nouveaux chefs, puisque l'ancienne équipe Masterchef a disparu. Et là, ça dure 2 jours. Le premier jour, on fait cette cuisine à 300. Puis après, sur 300, ils en prennent 30.
Okay.
Déjà, 270 de virés, ce qui a fait grincer quelques dents sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, à l'époque.
Parce que c'était pas comme ça avant?
Non, c'est un truc nouveau. Je suis pas certain. Ils ont pas eu de chance. Il y avait un temps déplorable. Il faisait 2-3 degrés ressentis. C'était une horreur. Moi, j'étais avec le petite veste, c'était une horreur. Bref. Et oui, ça a fait grincer des dents derrière. Et sur les, donc, de 30... Le lendemain, on a fait une épreuve soupe de poisson et grand aioli. Où là, il y en a 12 qui sont partis. On n'était plus que 18. Et sur les 18, dans un salon marseillais, on a présenté au chef notre plat signature.
Et là, c'est quoi ton plat signature ?
J'en reviens au coquille Saint-Jacques. Tu as compris que c'était quand même un de mes ingrédients préférés. Mmh. J'avais fait une coquille Saint-Jacques sur un lit d'endive. J'avais repris quelques ingrédients que j'avais fait à Paris avec un caramel d'agrumes et Yannick Delpech m'avait fait un compliment en me disant ça, je veux bien l'acheter à un certain prix dans un restaurant. Et là, j'avais été sur les 18, ils en sélectionnent 12 qui vont intégrer l'atelier la semaine suivante.
Donc là, l'atelier, c'est à Paris.
Donc là, l'atelier, c'était à Paris. Donc j'ai retravaillé la semaine entre les deux.
En te disant, tu ne savais pas trop à quoi t'attendre?
Parce que Marseille, on est rentré chez nous et on était convoqués pour la semaine d'après. Donc j'ai retravaillé et puis je suis parti un dimanche après-midi. On avait rendez-vous lundi avec une petite valise. Et puis je me suis dit, advienne que pourra.
Et à ce moment-là, tu as le droit de dire ce qui s'est passé à Marseille ou tu n'as pas le droit?
Ah non, de toute façon... Ils nous font signer un contrat de confidentialité tout le long de l'émission. On aura le droit absolument de rien dire.
Et même à ta femme?
Alors c'était un peu biaisé parce que il me voyait pas rentrer.
Ouais.
Si tu veux les premières épreuves, un éliminé ou deux éliminés, l'éliminé rentre chez lui. Moi, ils ont bien vu que semaine après semaine, je ne...
Oui, donc tu vas à Paris après et après, ils se disent, il y a un truc, quoi.
Non, mais si, ma femme, mes enfants, je pouvais le dire, mais eux savaient que... Et ça n'a pas fuité, hein, pas du tout.
Oui, donc après, parce que tu vas à Paris, et bon, maintenant on peut le dire, mais en fait, tu finis finaliste de Masterchef.
Je suis finaliste, ouais.
Finaliste. Bon, on va pas dire aux gens ce qui s'est passé, on leur laisse découvrir à la fin de l'épisode. Il y a combien de temps entre ce moment-là et la finale ?
Un mois et demi de tournage.
Il y a combien d'épisodes ?
8.
8.
8, mais dans chaque épisode, il y a 3 épreuves, donc ça fait 24 épreuves. On en tournait une par jour, quoi. Ou deux par jour pour des toutes petites épreuves d'un quart d'heure, 20 minutes, comme les œufs ou les choses comme ça. Mais sans ça, c'était une épreuve par jour.
Et comment tu vis ces moments-là ? Est-ce que tu es galvanisé par la compétition ? Est-ce que ça te fait bizarre de cuisiner dans l'atelier ? Ça te plaît, déjà ?
Alors, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Je me dis, bon, j'ai mis le doigt dans un truc improbable. Moi, je pense, j'en reviens au profil. Ils avaient... vieux médecin de 55 ans, grand-père, je pense que ça, ils n'avaient jamais eu, donc ça les... Mais je me dis, qu'est-ce que je fous là-dedans ? La moyenne d'âge, derrière moi, c'était 25 ans, quoi. Il y avait des enfants, il y avait des candidats qui étaient beaucoup plus jeunes que ma dernière fille, donc... mais je me dis, allez, je vais amuse-toi, de toute façon, tu es peut-être dedans, vas-y. Et bon, je suis pas un compétiteur dans l'âme. Je vais pas rayer le parquet pour écarter tout le monde. C'est pas du tout mon style. Mais j'ai fait ma cuisine, j'ai écouté les chefs, j'ai progressé. Et voilà. Donc je me suis dit, vas-y, amuse-toi.
Et tu dis j'ai progressé parce qu'on a le temps de progresser dans un concours comme ça.
Ah ouais. Oui, il y a le stress de l'épreuve avec le timing qui est un vrai timing. Beaucoup de mes amis, quand j'ai raconté mon expérience, me disaient maintenant, quand on dit lever les bras, tu sais, allez, il reste 3 minutes, 3 secondes, c'est vrai, on lève les bras et si l'assiette n'est pas finie, terminée. Donc il y a cette peur, ce stress. Mais à côté de ça, on est quand même entouré de chefs très étoilés. On est entouré de chefs très étoilés. On cuisine pour des chefs étoilés.
Et au-delà du moment où ils donnent les sanctions, je sais pas, avant ou après le tournage, vous pouvez discuter, échanger. Ils sont quand même là, ils sont quand même disponibles.
Ah oui. C'est pas, on mange pas ensemble. C'est bien dichotomisé. Ils sont dans leur coin, nous. Mais au moment des épreuves, et le temps de. C'est pas à toi que je vais dire ça, mais c'est très long, on attend, et le spot machin, et la caméra bidule, et donc c'est très très long. Et là, on discute ensemble, oui, on se voit.
Et je sais que moi, j'ai déjà participé à des tournages, et je vois que c'est un temps très long, et quand on le voit au final à la télé, c'est un temps vraiment raccourci, très court. Et je sais que c'est un peu biaisé, parce que par exemple, les plats, ils arrivent plutôt tièdes, voire froids.
Froid, mais ça, ils ont l'habitude, ils nous l'ont expliqué. Ils savaient qu'ils dégustent très froid. Et que les intervenants qui jouent le rôle de jury sont prévenus que ça sera tiède ou froid.
Et les chefs, ils savent juger un plat froid ?
Oui, ils savent. Ils savent juger. Ils ont déjà un préjugement avant en nous voyant travailler.
Ah oui, c'est vrai que ça, on n'y pense pas, mais ils vous voient en fait pendant de préparer.
C'est énorme. Si je peux donner un exemple, une des épreuves qui m'a... Il y a 5-6 épreuves que j'oublierai jamais, qui sont dans ma tête. La première, c'est le travail sur la viande d'Yves-Marie Le Bourdonnec.
Un boucher star.
Pour un petit provincial comme moi, travailler c'est impensable. Et on était en duo avec un des candidats avec qui j'ai gardé des relations, Maxime. Et Yves-Marie Le Bourdonnec m'a dit en off, dit, j'ai vu tout de suite que tu savais cuire une viande, parce que tu as été le seul à la faire reposer sur une grille, à mettre juste un petit papier d'aluminium, mais pas l'envelopper. Tous les autres, soit la faisaient pas reposer, soit l'envelopper dans un papier d'aluminium très serré. C'est pas du tout ça. Il me dit, j'ai vu que tu avais pris soin de ma viande, tu la détendais, et ça... Voilà. Donc tu vois déjà ça, ils ont déjà des a priori quand ils arrivent.
Et est-ce que des fois, toi tu te dis, j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas le faire parce que c'est un plat qui souffre d'être mangé froid ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout ?
Ah non, pas du tout. Puis ils nous ont prévenus. Non, ils nous ont prévenus. C'est comme ça. C'est dans tous les, je pense, dans tous les émissions culinaires, la même chose. Hein.
Et est-ce que parfois ils te font refaire des trucs, ou est-ce quand même ils te laissent libre ? La présence des caméras, par exemple, elle est gênante ?
Alors, enfin, un peu des deux. Je veux dire, c'est que tu t'y habitues assez vite. Enfin, je m'y suis habitué assez vite. Ça m'a d'ailleurs étonné d'être microté à 7h du matin quand on arrivait au studio, d'avoir une caméra constamment sur soi. C'était pesant quand ils nous interviewaient alors qu'on était en pression, qui restaient 10 minutes, qu'on n'avait rien de préparé. On leur disait souvent, mais ils nous disaient, je fais mon métier. On a besoin de ça derrière pour faire des voix off, pour faire des...
Il n'y a, a pas des petites frictions, entre guillemets, ou des moments un peu compliqués?
Aucune friction, mais je dis, attends, là, je ne peux pas te répondre. Si, tu vas me répondre, parce qu'il faut que tu me répondes. Et là, tu poses ton couteau, tu regardes ta montre, vas-y.
Et l'ambiance entre les candidats, elle est comment? Parce que vous passez quand même du temps ensemble.
On passe énormément de temps ensemble.
Le soir, vous êtes ensemble?
On est dans une maison à Nières et moi, je partageais ma chambre avec... ça, je m'en foutais, mais donc... très bonne, parce qu'on est tous là passionnés, voilà. Voilà, tu réunis, au début on était 12, tu réunis 12 passionnés de cuisine, t'imagines le soir, on rentrait, on avait l'avantage d'avoir nous proposer quand même pas mal d'ingrédients, ramener les ingrédients de l'atelier.
Ah, vous refaisiez à manger
On se refaisait à manger, mais là on s'amusait, quoi. Allez, toi, je vais te faire manger mes rognons, tu vas voir. Moi, je vais te faire manger mes petits pois, tu vas voir. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'était très bon enfant.
Ah oui, il y a vraiment une vraie ambiance de passionné de cuisine.
Tu sais, à la fin, j'ai dit, je viens de vivre une expérience culinaire fabuleuse, mais je crois que l'expérience humaine est tout aussi fabuleuse. Avec les candidats, avec les chefs, avec les gens de la prod. Il y avait beaucoup des gens de la prod qui étaient adorables avec nous. Non, c'était très belle histoire.
Tu dis, il y a quelques épreuves qui sont restées gravées dans ta tête. Tu en as d'autres, une ou deux par exemple, et pourquoi? Peut-être même des échecs aussi, pas forcément que des épreuves que tu as gagnées.
Dans les échecs, oui, mais ça, je les ai mis dans un coin de ma tête. Non, parce qu'il y a eu... Enfin, je ne sais pas. Mais il y a eu de tellement belles choses en positif, que, comme l'épreuve que j'ai gagnée sur les petits pots. Il fallait cuisiner des petits pots pour bébé. Avec toutes les contraintes que ça apporte, hein, tu peux pas mettre n'importe quoi pour un bébé et faire le même plat gastronomique pour la maman. Et j'ai gagné l'épreuve. J'avais utilisé un légume qui s'utilise pas d'habitude, c'est le navet que j'avais associé.
Tu utilises beaucoup le navet, j'ai l'impression.
Navet, céleri, j'adore ça. Légumes de racine, ouais. Et j'avais associé ça à de la carotte que j'avais travaillé avec du jus d'orange, du miel. Donc ça avait adouci le côté astringent, amer du navet. J'avais fait un petit peu de veau mouliné. Et au moment, j'avais servi le médaillon de veau avec les carottes, le navet confit. Et j'avais gagné l'épreuve. Et on devait appeler ce petit pot le petit pot d'Oscar, qui est mon petit-fils.
Est-ce qu'il y avait parfois des frustrations, dans les contraintes, des choses qui pouvaient te contrarier?
Frustration, c'est trop fort, parce que frustration, il y a un côté négatif. Fatigue parfois, marre certains jours, fatigue beaucoup, parce que on vient d'en parler tout à l'heure, le temps, c'est-à-dire qu'il nous réveillait à 6h du matin, on rentrait à minuit. Aussi bizarre que ça puisse paraître pour une émission culinaire, on avait bouffé un bout de pizza froide et un verre de coca chaud dans le ventre. J'ai perdu 8 kilos, moi, quand même, pendant l'émission. Ben oui, on se levait très tôt, il fallait prendre l'avion, il fallait prendre le train.
Parce que les épreuves sont un peu partout.
On s'est baladé dans toute la France, même en Europe. On est allé à Rome, Madrid, Lisbonne.
Et là, t'arrives en finale. La finale, c'est contre une seule personne, c'est ça?
Ouais, Candy.
Et donc, tout le long de l'émission, tu dois cuisiner contre cette personne?
Alors, si tu veux, la finale commence à 3.
Ok.
Avec Maxime, un des candidats avec qui j'ai gardé une belle relation, commence à 3, où là on fait des souvenirs fabuleux, parce qu'on cuisine pour Marc Vera, pour Arnaud Lallemand, pour Eric Guérin, pour Rabanel, tu vois, c'est Conticini, bref, là quand on a vu arriver tous ces gens-là, Edouard Loubet, moi j'avais les yeux qui...
Et alors, petite parenthèse, t'es jamais pris par l'enjeu? Tu te dis jamais, pas forcément que pendant la finale, mais tu te dis jamais, là c'est un trop trop grand chef, c'est vraiment trop de pression?
Non,
pour moi.
Pas par le jury. Non, je me dis, chouette, putain, je vais cuisiner pour un mec comme ça. Si je me vautre, tant pis, mais au moins j'aurais cuisiné pour un gars comme ça. J'ai fait l'épreuve avec les père et fils Marcon, c'est une des épreuves que j'ai adorées. Pour moi, c'est des demi-dieux, les Marcons. J'adore les champignons. Je suis allé manger chez eux. D'ailleurs, ils m'ont reconnu. On a discuté ensemble. C'était très agréable. Et j'ai jamais eu. Non. Je disais, essaye de ne pas les décevoir quand même. Passe pas pour un rigolo.
Une excitation, mais pas non plus.
Mais pas de. Pas une, voilà, ça ne me bloquait pas. Une excitation. Voilà.
Et donc, tu arrives à la finale, vous êtes trois et vous devez cuisiner pour ces gens-là.
Pour ces gens-là. Et puis je me débrouille pas si mal. J'étais fatigué là, ça commençait à tirer. Mais je me débrouille même très bien puisque je sors finaliste avec Canly, enfin contre Canly. Et on est plus que deux et on fait la finale à Molitor, à la piscine Molitor.
C'est quoi les épreuves de la finale à deux? Il y en a qu'une?
Il y en a deux. Il y en a une où je me vautre lamentablement. Il fallait faire une recette plus visuelle que gustative, puisqu'on avait le photographe de Frédéric Anton, la photographe, qui devait prendre nos plats en photo et ça comptait plus que le goût. Là, j'ai explosé. Là. J'ai explosé en vol. J'étais fatigué, mais ça n'excuse rien. J'ai essayé de faire quelque chose qui ne me ressemble pas, avec des virgules, des feuilles, des fleurs, des machins. Et bon, voilà, non, c'est pas moi.
Et quand tu le revois maintenant, tu dis, ouais, c'est vrai que c'était pas top.
Ah ben c'était une horreur. C'était une horreur.
Et c'est quoi l'autre épreuve?
La dernière, c'est à la piscine Molitor, cuisine en extérieur au bord de la piscine. C'est superbe, un lieu vraiment superbe. On avait deux commis avec nous, d'école hôtelière parisienne, donc ça c'était très sympa. Et on devait cuisiner pour 25 personnes, entrée, plat, dessert, en 3 heures. Je ne te dis pas.
Et là, tu fais ce que tu veux, ta carte blanche.
Là on fait ce qu'on veut, on décide de notre plat.
Et tu as fait quoi?
J'ai fait une déclinaison d'asperges en entrée, agrumes. Qu'est-ce qu'il y avait? Un petit peu de menthe. Enfin bon, c'était très bon, très frais, parce qu'il faisait chaud. Après, j'ai fait un poulet au vin jaune, morille, enfin, grand classique de la cuisine française, mais faut pas me redemander de faire des virgules et des petites fleurs.
Tu te dis, j'ai trop tenté, je vais essayer de faire ce que je
veux
faire.
Je le dis à un moment dans l'émission, le journaliste qui m'intervient, tu pars sur un truc. Oui, mais je dis, ça va, c'est bon, je suis planté hier, je ne vais pas me replanter aujourd'hui. Et j'ai fait une crêpe soufflée, fourrée avec des framboises marinées dans le Campari, et avec un sorbet à la framboise que j'avais réussi. Vraiment, les chefs ont tous été...
Et au final, t'es quand même content?
Je suis heureux.
C'est quand même une expérience, comme tu dis.
C'est une expérience fabuleuse. T'imagines, pour un cuisinier amateur, de passer un mois et demi, si tu fais abstraction de la télé, mais encore, c'était quelque chose que moi, j'avais toujours rêvé de voir un tournage de film ou d'émission comme ça, de voir le derrière de tout ça. Et j'étais dedans, t'imagines. Et puis la cuisine, quoi. La cuisine. D'arriver dans cet atelier avec des produits. Tu lâches une classe de CM2 dans un grand jouet de. Dans un
jouet club.
Dans un jouet club à la veille de Noël. Ouais, c'est pareil, quoi.
Et quand tu rentres chez toi, t'as encore envie de te faire à manger ou tu te dis, ouais, j'en ai marre, je ne veux plus me faire à manger pendant.
Au contraire.
Ah oui, quand même.
Au contraire.
OK.
Et non, au contraire, parce que j'ai appris.
Oui.
J'ai appris. Même s'il y a eu très peu de masterclass, même s'il y a eu...
Il y en a quand même eu?
Il y en a eu une ou deux sur le gâteau au chocolat, notamment. On avait un gâteau au chocolat à faire avec Patrick Roger comme jury. C'est quand même pas rien. Et le glaçage, le nappage, il y a quand même des gestes techniques avec la cuisson du chocolat qu'il faut faire descendre, qu'il faut faire remonter pour qu'il soit brillant. Ça, Delpech nous avait fait une petite masterclass la veille.
Et ils font ça pourquoi? Parce que... Enfin, ils font ça pour que vous soyez meilleur à la fin, ou ils font ça parce que ça fait des trucs à filmer, ou c'est quoi l'intérêt de la prod de faire ça?
Peut-être, je pense qu'ils font ça parce que d'abord essayer de nous apporter quelque chose quand même. Ils le disent tout au long de l'émission. On essaie de vous faire grandir, on essaie de vous faire progresser. Vous nous avez écoutés, faut nous écouter. On est là pour faire progresser. Au bout d'un moment, faut nous faire progresser, quoi. Donc ils nous le faisaient régulièrement lors des épreuves en disant, ben non, là, regarde, t'es trop cuit. Là, moi, je serais toi, je ne mettrais pas cette épice parce que ça ne va pas coller avec... Et ils avaient toujours raison, bien évidemment. T'es un chef étoilé.
Et finalement, l'émission est diffusée et tu me disais, la diffusion était un peu chaotique parce que ça tombe pendant l'été, à un moment où les gens n'ont pas spécialement envie de voir des émissions de cuisine. Et toi, ça, c'est quoi? Ça t'embête ou tu t'en fous? Tu dis que ce n'est pas vraiment ton problème?
Ça m'embête, oui, parce que c'est une belle émission. Je crois que la dernière... Il y a eu des problèmes peut-être de casting, de chef ou de candidat, je veux bien m'inclure dedans, des problèmes de montage, on ne voyait absolument pas de cuisine, ça tous mes amis me l'ont reproché, me l'ont dit, parce que moi j'y suis pour rien, mais voilà, on aurait dit, ils m'ont tous dit, on aurait aimé te voir déballer le panier surprise, puis voilà, nous expliquer ton... ton état d'esprit, tes idées, et puis voir construire ton plat. Ça, nous voyons sortir le plat, puis après, pof, l'assiette finie. C'est dommage.
Et toi, à la fin, tu dis c'était une belle expérience, et plus qu'une expérience télé, c'était une expérience humaine, comme une formation accélérée en cuisine.
Voilà, t'as résumé un petit peu tout. Je sais, je compare souvent, quand on me dit comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti, je compare souvent un fan de Johnny Hallyday, maintenant ce n'est plus possible malheureusement, à qui Johnny Hallyday viendrait dire, fan, le gros fan, tu vois, ce qu'on voit à la télé. Tu viens avec moi pendant un mois et demi, tu fais la tournée avec moi et tu viens chanter sur scène avec moi. T'imagines le fan de Johnny Hallyday? Bah, c'est ce que j'ai vécu, voilà.
Merci à Philippe et à Olivier pour être venus nous parler de tout ça. Et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de la série et mercredi prochain pour un nouvel épisode de Bouffon. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes animée par Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination Laura Cuissard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pourquoi pas nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. À la semaine prochaine !